Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Floriane a toujours voulu des enfants et elle est d'abord devenue la belle-mère de deux garçons. Alors, dès le début, elle exprime à son conjoint son envie de devenir maman un jour et quelques années plus tard, ils décident d'agrandir leur famille recomposée. La grossesse se passe très bien pour Floriane, elle aimerait juste pouvoir voir le visage de son bébé qui reste caché à l'échographie, surtout lorsque son conjoint lui montre une vidéo TikTok dans laquelle une femme découvre, lors d'une échographie, que son bébé a une fente labiale avant appelée bec de lièvre. Mais par manque de temps et de moyens de l'hôpital, Floriane n'a pas droit, ni n'est informée de faire une écho de contrôle pour s'assurer que tout va bien. Le jour de l'accouchement arrive plus tôt que prévu et lorsque le bébé de Floriane arrive, c'est l'étonnement car elle apprend que son bébé a une fente labiale. Alors soit l'appli TikTok est la nouvelle Madame Irma, soit la coïncidence est incroyable, mais pas si improbable que ça car en France, c'est un bébé sur 700 qui naît avec une fente labiale. Dans cet épisode, Floriane nous raconte comment elle a vécu la découverte de la fente labiale de son fils à l'accouchement, son opération à tout juste 6 mois, et pourquoi, si cela ne tenait qu'à son cœur de maman, elle n'aurait en rien modifié le visage de son bébé, si parfait à ses yeux. Bonne écoute.
Bonjour Floriane.
Bonjour Shane, merci de m'accueillir.
Merci à toi de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors toi, tu es belle maman, maman d'un petit baby qu'on va peut-être entendre en fond sonore dans l'épisode. Écoute, je te laisse te présenter, nous dire quel âge ont tes beaux enfants et ton petit garçon.
Donc moi c'est Floriane, je suis en couple avec mon amoureux qui a déjà deux grands enfants, le grand qui a 16 ans et le moyen qui en a 12. Et on a eu tous les deux un baby qui a maintenant 9 mois.
Ok.
Voilà, et on a deux chats aussi dans notre famille.
Famille très nombreuse.
C'est ça. Que des garçons, ouais. Sauf moi.
Ah ouais. Bon alors, on va revenir avant tout ça. Toi, plus jeune, comment t'envisageais la maternité? Est-ce que c'était quelque chose... Est-ce que tu savais que tu deviendrais maman? Tu voulais être maman plus tard? Ou c'était pas vraiment un sujet qui t'intéressait?
J'ai toujours voulu devenir maman. Ça a toujours été... quelque chose d'important pour moi. Ma mère est assistante maternelle, donc j'ai grandi autour de petits. Ouais. Et je suis devenue enseignante en élémentaire, donc j'aime les enfants et j'avais envie d'en avoir. Voilà. Okay. Et donc je voulais une fratrie.
Ouais.
J'ai toujours voulu avoir une fratrie. Pas forcément avoir plusieurs enfants, mais avoir une fratrie. D'accord. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, ben, ça s'est fait tout seul du coup.
Ouais. T'as pas eu de mal avec le fait qu'il ait déjà deux enfants?
J'avais fait une liste de pour et de contre.
Ouais.
Et dans la liste de... Je savais pas encore s'il avait des enfants ou pas. Et j'avais mis en bas, je me souviens, enfant, point d'interrogation. Est-ce qu'il en a ou pas? Et où est-ce que je mets dans pour ou contre? Et je me suis dit, bah, j'attends de le rencontrer vraiment pour pouvoir... me prendre une décision, quoi.
Ouais, quand il t'a dit qu'il avait effectivement deux enfants.
Bah, ça m'a paru tellement naturel. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est le package. Si je prends l'homme, je prends les enfants avec.
Ouais.
Voilà.
Donc, te voilà belle-mère.
C'est ça.
Comment ça se passe, vos débuts, la rencontre avec les enfants? Ils ont quel âge à ce moment-là, eux?
Ils ont 7 et 10 et demi. 7 et 10 et demi. Ça se passe en douceur parce que du coup on se met ensemble en février 2017 et je rencontre les enfants en septembre 2017, donc on s'est laissé beaucoup de temps. Il parlait de moi sans dire qu'il avait quelqu'un vraiment.
Ouais.
En fait on se faisait toujours un restaurant et à chaque fois à la fin il y avait des petits carambars et je donnais mon carambar au papa et je disais tu donneras les carambars aux enfants.
Okay.
Donc j'étais la dame aux carambars à l'époque. Et quand je les ai rencontrés donc en septembre, c'était pour aider au déménagement. Mmh. Mon compagnon avait acheté une maison et il passait de la location à la maison qu'il avait achetée. Donc j'avais donné un coup de main, enfin aussi, officiellement j'avais donné un coup de main pour le déménagement.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont appris à me connaître. On a pris 2-3 fois où je suis venue les voir jusqu'à ce que on leur dise qu'on était ensemble.
Ouais.
Et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. Ils sont gentils. Et l'adolescence, par contre, a été compliquée du grand.
Ouais, oui.
Ça a été très compliqué. Mais là, maintenant, ça s'apaise et il y a beaucoup plus de respect qui s'installe. Et ouais. Et le moyen, du coup, il rentre dans sa crise d'adolescence, là maintenant.
Sympa.
Mais on se connaît. Mais on se connaît maintenant. Donc ouais. Ça va être différent par rapport au premier, je pense. J'espère.
Ouais. Toi, t'as réussi à trouver ta place au sein de cette famille de trois.
Ça a été compliqué parce que ils avaient tous leur bagage.
Ouais.
Puis prendre ma place moi en tant que belle-mère, en tant que coparent, mais pas en tant que substitut de la maman, parce que la maman ils font une semaine sur deux, donc la maman est impliquée dans le fait d'élever les enfants. Donc voilà. Donc,
ouais.
Donc ça c'était un peu compliqué. Au départ, de trouver l'équilibre. Moi, j'avais en plus plein d'idées sur la parentalité au départ, en disant « faut faire comme ci, faut faire comme ça. Oh là, ça va pas, c'est parce qu'on réagit pas comme il faut. » Et en fait, pas du tout. Voilà. Moi, je connaissais pas les enfants, donc ces enfants-là. Donc, ouais. Du coup, pour pouvoir adapter, trouver des règles, afficher sur le frigo les règles d'heure de coucher, l'heure de temps d'écran, débarrasser la table. Enfin, voilà, tout un système de points comme je voyais sur Internet et comme je faisais à l'école, en fait, quand
ouais.
je suis enseignante. J'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. En revanche, mon compagnon a bien fait en sorte que je prenne ma place. Il m'a dit, tu veux essayer des trucs, vas-y, essaye. Tu verras, moi je pense que ça marchera pas. Et en effet, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et donc on a mis du temps à trouver un équilibre.
Ouais.
Et là maintenant, c'est assez bien rodé, je pense.
Bon, nickel. Ça aura pris quelques années.
C'est ça,
ouais.
Plusieurs années. Il faut s'accrocher.
Est-ce que vous aviez parlé dès le départ du fait de ton désir de maternité à toi? Ce couple et cette famille recomposée.
Moi, je me souviens lui en avoir parlé dès le début.
Ouais.
Parce que justement, ça faisait partie de mes critères. Je voulais des enfants. Mmh. Je pouvais comprendre que lui n'en voulait plus puisqu'il en avait déjà deux.
Ouais.
Donc c'était normal. Donc tout de suite, je lui ai dit. Il a pas dit qu'il était contre, mais il a pas dit qu'il était pour non plus.
Okay.
Parce qu'il avait besoin de savoir si entre nous ça fonctionnait en fait.
Bien sûr.
Donc on a été un peu dans le vague à ce niveau-là pendant plusieurs années. Et puis un jour, c'est lui qui m'en a parlé.
Ah.
Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et puis après, il y a eu le Covid. Et les confinements. Et donc on s'est dit pendant le confinement, peut-être pas, vu ce qui se passe sur la planète, on va peut-être éviter de faire un enfant tout de suite. Ça a mis un frein à notre désir d'enfant.
Ah oui.
Ouais. En tout cas moi beaucoup. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup pour l'enfant, pour nous. Puis finalement ça c'est l'envie d'avoir un enfant a été plus forte. Et donc j'ai arrêté la pilule en juin 2020.
Mm-hmm.
Mais par contre, on nous avait dit au moment de les vaccinations, éviter de faire un enfant dans les 3 mois. Donc du coup, on a attendu 3 mois.
Ouais.
On arrive en septembre. Et en septembre, mon compagnon a eu une hernie inguinale.
Ah.
Et donc du coup, il a dû se faire opérer. Donc voilà, ça, on a attendu encore un peu. Et donc, on a vraiment tenté le coup en janvier 2021.
Ok.
22. 2022, je me suis trompée d'une année, c'était janvier 2022. C'est ça, janvier 2022.
Ah oui, donc vous avez quand même laissé 2 ans.
Voilà, c'est ça. Ouais, voilà.
2 ans entre parenthèses jusqu'à remettre le projet sur le tapis.
C'est ça.
D'accord.
Donc janvier 2022.
Ok. Donc là, c'est le moment où tu arrêtes la pilule ou tu avais déjà arrêté ?
J'avais arrêté la pilule avant, mais du coup, on faisait attention par rapport à ses problèmes de santé.
Ok. Et alors, combien de temps ça a pris pour que tu tombes enceinte ?
Un mois. Je suis tombée enceinte très rapidement.
Ouais.
Mi-janvier, j'étais déjà enceinte.
Comment t'as découvert ça ? Comment t'as accueilli la nouvelle ?
Ah bah, j'étais très heureuse. J'avais aucun symptôme à part l'absence de règles.
Ok.
Et donc j'étais là, je veux faire un test de grossesse. Mon compagnon a dit, attends, faut toujours attendre un peu parce que ça sera peut-être négatif. Attends de voir si t'as pas tes règles. T'attends 2 semaines. Et moi j'étais là, non, j'attendrai pas 2 semaines. J'ai attendu 1 semaine.
Ouais. Ah, quand même.
1 semaine, pas plus. Moi, compromis. Et évidemment, là, puisque j'étais très bien réglée, je me doutais que ça allait être positif et j'ai eu la joie de voir que c'était positif. Donc je suis allée réveiller mon compagnon avec la peluche de sa grand-mère et je lui ai montré la peluche et il m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il n'avait pas compris. Voilà, donc très heureux aussi quand il a finalement tilté. Et donc voilà, et puis on a attendu un petit peu de temps avant de l'annoncer aux enfants.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment ça s'est passé pour ça.
On a attendu le mois d'avril, donc j'étais enceinte en janvier-février, mois d'avril après la deuxième écho.
Ok.
En fait, parce qu'on partait en vacances, on partait en Espagne tous ensemble pour la première fois, on faisait des vacances ensemble et à l'étranger, c'était la première fois que les enfants prenaient l'avion.
Ah.
Et donc c'était toute une aventure et je me suis dit mais comme je vais être fatiguée, va y avoir des moments où peut-être que je vais peut-être pas être bien. J'ai eu aucune nausée, rien du tout, j'ai eu aucun problème. Et donc on leur a annoncé, on a rajouté une petite assiette et des petits couverts à la table. Et quand ils sont arrivés pour mettre la table, le grand a compris tout de suite et le moyen a fait semblant de pas comprendre. Et le grand était très heureux pour nous. Et le moyen a eu un petit peu de temps avant de s'adapter. Parce que ça y est, c'était fini. C'était plus le petit dernier.
Et oui. Ouais. Vous leur en aviez parlé avant ou pas ? De ce projet de faire un enfant ? Ou vous préfériez garder ça pour vous ?
Leur maman avait eu un enfant.
D'accord.
Donc quand elle a eu un enfant, donc un an avant notre bébé, on en avait parlé, on avait dit que pourquoi pas, qu'on allait essayer, mais qu'on savait pas combien de temps ça allait prendre aussi. Donc, et puis ça marchait tout de suite. Donc.
Ouais. Donc ils étaient quand même au courant du projet en amont.
Oui, au courant.
D'accord. Donc toi, ta grossesse se passe nickel ?
Très bien. Première écho, donc on a décidé d'être suivi par une sage-femme en libéral et les échographies officielles au CH de notre ville, à l'hôpital de notre ville. Et donc la sage-femme libérale, elle avait juste un échographe, mais pour le plaisir. Elle n'avait pas la compétence pour analyser les échographies.
D'accord.
C'était juste pour le plaisir de voir le bébé bouger dans le ventre. Voilà.
Ok.
Donc la première fois qu'on voit notre bébé, il faisait des galipettes dans le ventre. Et on s'est dit tout de suite, c'est un garçon.
Ah ouais. Voilà,
c'était instinctif, c'est un garçon. Alors. Bon, et première écho se passe très bien. Et puis avant la deuxième écho, mon compagnon regarde TikTok et tombe sur une vidéo et qu'il me montre et me dit il faut absolument que lors de la deuxième échographie, on voit le visage de notre enfant. Et en fait, il était tombé sur une vidéo TikTok d'un enfant qui avait une fente labio-palatine, c'est-à-dire un bec de lièvre, donc la lèvre fendue, le nez de travers et pas de palais.
Okay.
Donc de quelqu'un qui montre comment son bébé réussit à boire, c'est les difficultés qu'il rencontre, tout ça. Donc on se dit, il faut absolument, lors de la deuxième écho, qu'on voit le visage de notre bébé. Déjà parce qu'on en avait envie.
Ouais. Donc c'était quoi ? C'était l'écho, voilà. L'écho en 3D ?
C'était la deuxième écho. Ouais, non, là, il n'y avait pas d'écho en 3D, mais on pouvait quand même voir comme une photo, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Donc on va à la deuxième écho, et le bébé est positionné de telle manière qu'on ne peut pas voir la tête.
D'accord. Et vous gardez cette vidéo en tête
Et donc on garde cette vidéo en tête, mais sans vraiment être... On se dit pas mince, on l'a pas vu. Et donc on était au mois de juin. lors de la deuxième écho. Je reviens un peu en arrière et rétrospectivement, ça me fait beaucoup d'émotions. L'échographe, la gynéco, elle dit on se reverra au mois de septembre pour la troisième écho et on essaiera de voir le visage à ce moment-là.
Ok.
Bon, bah, l'été se passe, ça se passe bien, je commence à être un peu fatiguée. Normal, quoi. Franchement, grossesse parfaite. Et troisième écho, elle voit toujours pas le visage de bébé. Et elle sent que j'ai des contractions, donc monitoring. Moi, je sentais pas du tout les contractions.
T'es à combien de mois, pas. Là ?
Et là, j'étais en septembre, début septembre, donc on était 2 mois. Je devais accoucher le 28 octobre.
Oui, d'accord. C'est sur la fin, donc vers 8 mois.
Je suis sur la fin, ouais. Et donc, monitoring, on me dit qu'il faut que je me repose, que j'arrête de bouger, mais j'étais en arrêt depuis le début. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on a 2 enfants à charge, mon congé maternité est compté comme un troisième, même si moi, j'ai pas eu d'enfant.
D'accord.
J'ai eu donc un super grand congé mat. Donc,
cool, ouais.
Accumulé avec les vacances d'été, nickel. Ouais. Franchement, super. Et donc... Donc je me repose et puis le vendredi je perds le bouchon muqueux. Donc une semaine après la troisième écho, je perds le bouchon muqueux, mais comme on me dit, c'est pas parce que vous perdez le bouchon muqueux que vous allez accoucher, pas d'inquiétude. Donc moi j'appelle personne, je dis juste à mon compagnon, je dis pas à ma mère par contre, parce que elle, lorsqu'elle a perdu son bouchon muqueux, 24 heures après, elle était à l'hôpital et elle m'a eu.
Ah ouais.
Donc je me suis dit, on va éviter de l'inquiéter pour rien. Le samedi, des amis viennent, je fais quasiment rien, c'est mon compagnon qui s'occupe de tout, des lasagnes, un gâteau au chocolat, vraiment super, un bon repas. Et c'est là que donc ils partent. Le soir, je suis fatiguée, je vais sur le canapé et je me dis, c'est bizarre quand même, je suis très fatiguée. Oh, j'ai envie d'un morceau de gâteau au chocolat. Donc je vais prendre mon morceau de gâteau au chocolat. Et je pense que j'ai des fuites urinaires.
Ah.
Alors qu'en fait, ouais. C'était la poche des os qui était percée, mais j'étais pas sûre.
T'avais pas de contraction à ce moment-là.
Et il paraît que j'en avais, mais en fait, je ressentais aucune contraction. Donc, je pouvais pas savoir. Si je me touchais mon ventre, je sentais que mon ventre se durcit, mais c'est tout, quoi. Donc, j'avais pas fini de préparer la valise. Donc, je finis la valise, je la mets dans l'entrée. Mon compagnon était en train de faire deux nouvelles chambres pour les enfants. Il faisait les travaux. Donc là, il venait de finir. Il venait de monter les lits des grands. Donc, les grands venaient de partir chez leur maman.
Okay.
Donc ça, pareil, timing parfait.
Ouais.
Pas besoin de se préoccuper. Je m'étais fait tout un film en disant, mais si ils sont là, ça veut dire qu'il faut les ramener chez leur maman. Mais moi, je vais peut-être leur crier dessus dans la voiture si je suis pas bien. J'avais peur de leur crier dessus alors qu'ils auraient été tout gentils. Mais donc non, ils étaient chez leur maman et on avait trouvé une solution si finalement ils avaient été chez nous. Donc.
Ouais.
Et donc, je perce la poche des os. Donc mon compagnon descend, voit les valises dans le couloir, il comprend. Je lui dis, on attend un petit peu, je me change pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Je me change et ça continue de couler. Donc là, on prend la voiture, on est à 45 minutes de l'hôpital.
Ah oui, quand même.
On habite en campagne. Et donc, on va à l'hôpital. Mais pour vérifier en fait si tout va bien, si c'est vraiment ce que je pense, mais on est serein. Enfin, moi, en tout cas, je suis sereine. Et mon compagnon qui cache bien ses émotions, je pense qu'il est serein.
Intérieurement, il est en panique absolue.
Mais ça allait quand même, parce que c'était ça, je sentais aucune contraction, c'était vraiment tout doux, quoi.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance ?
J'avais fait un projet de naissance à l'oral avec mon compagnon.
Ok.
C'est-à-dire que je voulais éviter la péridurale si je le pouvais, mais je me bloquais pas sur l'idée de la prendre. Pareil pour la césarienne. Si j'avais une césarienne, c'était avec mon compagnon à côté dans l'idéal. Je voulais pas m'endormir en fait. Je voulais pas être endormie et je voulais pouvoir bouger mes jambes. Donc c'est pour ça que je voulais pas de la péridurale et je voulais pouvoir sentir mon corps, quoi.
Ouais, mais t'avais fait une préparation quelconque pour...
Une préparation classique. Elle nous avait expliqué la pose de la péridurale, elle nous avait montré l'aiguille qui est finalement pas si grande que ça. Elle avait complètement dédramatisé le truc aussi.
Ouais, mais pas d'accompagnement pour accoucher sans péri.
Non, non, non. Non, juste le livre, la BD de Lucie Gomez.
Ouais.
Et tous les podcasts que j'ai écoutés.
Ok.
Ça, franchement, ça m'a aidé, mais quelque chose. C'est incroyable. Incroyable comme ça m'a aidé d'écouter tes podcasts, de lire les BD. C'est, voilà, c'était super. Parce que du coup, donc j'ai fait un monitoring. Évidemment, j'avais la poche des os percée, antibio. Et on m'a dit, vous êtes un peu trop en avance. Et donc, on va vous garder. Et l'objectif, c'est que vous soyez le plus longtemps alité à l'hôpital. L'objectif, c'était de nous garder une semaine, deux semaines. Voilà.
D'accord.
Et moi, dans le déni complet, j'avais pas compris que si j'accouchais maintenant, mon bébé allait être prématuré.
Mmh.
Et le matin, à 2h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc mon compagnon était rentré, je lui avais dit « essaye de dormir ». Ce que je n'avais pas idée, et je pensais pas, c'est qu'en fait, il allait pas dormir du tout.
Ouais.
Donc il était rentré. Et moi, à 2h du matin, je commence à avoir des contractions. J'appelle pas tout de suite la sage-femme qui était de service, parce qu'il y avait une maman à côté qui venait d'avoir une césarienne, qui était séparée de son bébé, qui était au service néonat.
D'accord.
Donc, du coup, je voulais la déranger le moins possible. Et donc, j'ai les contractions. Je commence à avoir mal, mais pas trop. Ça me fait des pics de douleur et puis après, je pense que l'ocytocine faisait effet parce que j'avais l'impression d'être sur un petit nuage.
Mmh.
J'étais bien sur mon petit nuage et hop, le pic recommençait et petit nuage. Donc je laisse faire et puis je chronomètre quand même et puis je vois qu'elle se rapproche. La sage-femme arrive et elle me donne du space-fond en disant c'est peut-être du faux travail donc on essaye. Si dans une heure ça continue, on fera un monitoring. Une heure après, du coup, j'ai fait le monitoring. J'étais sur une table, enfin une chaise, avec une barre métallique qui était dans mon dos. Ça me faisait mal. C'était ça qui me faisait plus mal par rapport aux contractions. Et donc, à 6h du matin, rien ne bouge. J'appelle mon compagnon qui prend le temps d'arriver. Il arrive à 7h. Et à 7h, j'étais toujours allongée et ça c'était vraiment pénible, toujours sous monito. J'ai demandé à être décrochée parce que j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus d'être accrochée, j'avais besoin de bouger, puis de plus avoir cette barre métallique dans le dos.
Oui, tu m'étonnes.
Donc on marche ensemble, mon compagnon appuie bien au bas du dos, là où la sage-femme avait montré où il fallait appuyer, donc ça me fait du bien. Je fais du ballon, je commence un peu à râler parce que les contractions me font mal et puis elles me saoulent en fait, ces contractions. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles m'agacent. Donc je parle mal à mon compagnon qui gentiment essaye d'appuyer sur le bas de mon dos et puis à force d'avoir appuyé sur le bas de mon dos, j'ai mal sur cet endroit-là. Donc j'essaye de lui expliquer qu'il faut être plus haut ou plus bas, mais il comprend pas parce que sous l'effet de... Enfin, il n'y a que moi qui me comprends en fait.
Ouais.
Voilà. On me remet sur monito, elle évite la sage-femme de m'examiner, elle dit on attend un petit peu encore parce qu'on va éviter d'introduire des bactéries, ce serait dommage. Ok, donc monito, la barre qui me refait mal, les contractions qui montent. Mais par contre, le petit nuage qui reste. Et je m'endors entre chaque contraction.
Ah.
Le rêve total. Et vraiment, c'est quand je sens que la contraction arrive, je me dis, allez, c'est pas grave, après tu seras bien. Et donc, ça fait des pics comme ça. Et au bout d'un moment, franchement, il y a une contraction qui me fait hyper mal. Je dis, mais elle est où cette sage-femme ? Elle dit, elle arrive dans 15 minutes, mais elle arrive toujours pas, ça fait une demi-heure. J'en pouvais plus. Mon compagnon a juste le temps de me tendre un haricot d'hôpital pour que je vomisse dedans.
Ah.
Tellement
la
douleur est arrivée d'un coup. La sage-femme arrive sur les entrefaits, elle me dit « Ah, c'est bon signe, ça veut dire que c'est bientôt !» Merci. Et donc, elle m'ausculte, j'étais dilatée à 8.
Ah ouais.
Oula. Et donc j'avais réussi à tenir jusque midi à 8, donc de 2h à midi à 8. Donc trop contente, mais fatiguée. Donc là, je demande une péridurale parce que je voulais pouvoir pousser en forme.
Ouais. D'accord.
Me connaissant ma fatigue, je savais que j'aurais peut-être pu, mais j'aurais été lessivée après, en fait. Ouais. Et je voulais profiter du moment avec mon bébé. Et donc, on va en salle d'accouchement. L'anesthésiste arrive. Il me fait la péridurale qui fonctionne très bien. Je demande une toute douce, que je puisse sentir les contractions. Je ne peux plus sentir les contractions, mais je veux sentir le passage de mon bébé. Donc il me dit ok, donc toute douce. Il me dit vous appuyez plusieurs fois si vraiment vous avez envie que ce soit plus fort. J'ai jamais appuyé. Et j'ai pu me mettre dans la position que je voulais, sur le côté. La sage-femme m'a laissé faire. Super l'équipe, franchement top. La sage-femme, l'auxiliaire. Excellente. Et donc je pousse. Sauf que j'ai mis 40 minutes à expulser le bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le protocole, normalement, c'est 30 minutes. Et la gynéco est arrivée et elle voulait faire une épisiotomie. Et la sage-femme a dit ah non, il n'y a pas besoin, le bébé arrive. Il se sentait bien, ouais. Le monitoring était bien. Voilà. Donc après, ils me remettent quand même sur le dos pour finir. Et là, le bébé sort et la gynéco a dit « Est-ce qu'on était au courant de ça ?» Et moi, j'étais dans mon truc, donc j'ai entendu sans entendre. Et mon compagnon, lui, alors qu'il a vu le monitoring avant, tout allait bien dans les constantes, il a cru que le bébé était mort.
Ah ouais ?
Vraiment, rien que cette phrase-là, il a cru que le bébé était mort. Donc, on nous le donne tout en nous disant bah voilà, il a une fente labiale.
D'accord.
Et donc la vidéo qu'on avait vue avant, elle fait tilt, on comprend. Donc on sait ce que c'est, donc on n'a pas si peur en fait.
Mais c'est quand même incroyable. Ah oui, soit tombé sur cette vidéo
et que ça l'ait marqué à tel point qu'il me l'ait montré.
C'est incroyable.
Parce qu'il aurait pu passer, on a dû sans doute passer sur plein de vidéos différentes et sans s'arrêter, mais incroyable. Incroyable. Et donc on voit le bébé, on nous dit qu'il a une fente labiale, et je remercierai jamais assez l'auxiliaire qui nous, en fait on voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille.
D'accord.
Donc c'était la surprise. Mmh. Et donc l'auxiliaire elle nous a dit au fait c'est un garçon ou une fille. Et donc notre cerveau il a arrêté de se focaliser sur le visage, mais il s'est focalisé sur au fait garçon ou fille. Donc garçon. Ouais. Notre première intuition était bonne. Et donc on me le pose que quelques secondes parce que prématuré, donc il fallait voir s'il respirait bien, si tout allait bien, et puis cette fente aussi puisque personne n'était au courant de cette fente. Donc bébé est enlevé, pour moi c'est flou le temps, je pense que ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on nous l'a ramené, le pédiatre nous a dit vous inquiétez pas, il a juste une fente labiale, donc c'est juste la lèvre qui est touché, le palais est intact, donc d'accord. Pour boire, pour manger, il n'y aura pas de problème. Donc on était rassurés direct.
Ouais.
Et donc on nous met le bébé sur nous et c'est un très beau moment. Malgré sa fente, alors on ne le trouve pas magnifique, hein, un bébé qui est tout bleu, qui sort, c'est pas forcément le plus beau des enfants, hein, mais y a l'attachement qui se fait tout de suite.
Mm.
Et donc on avait parlé de l'éventualité justement avec mon compagnon, si un problème, qu'est-ce qu'on fait, et on avait décidé qu'il ferait du pot à pot. Donc bébé est emmené dans le service néonatologie avec mon compagnon, je dis vas-y, moi je vais bien, il n'y a pas de problème, donc moi j'ai eu aucun problème.
Ouais.
Donc j'étais 2 heures dans la salle d'accouchement pour vérifier le placenta, etc. Pour le placenta aussi, je me suis fait mon petit délire où donc on m'a injecté les ocytocines de synthèse et puis elle tirait et je lui ai dit mais si vous voulez, je sens les contractions, je peux pousser. Donc j'ai expulsé mon placenta et j'ai demandé à le voir parce que j'étais curieuse de le voir. Donc je me suis dit mais mon bébé était dedans. Très étrange, voilà. Voilà, et donc pendant les 2 heures, comme j'avais une péridurale légère, j'ai pu me mettre sur le côté. Et puis j'ai pu contacter la famille en expliquant un peu tout. Pendant ce temps-là, mon compagnon faisait du pot à pot avec le bébé. Il allait bien, il est né à 1 mois et 10 jours avant, à 35+2. Donc ses poumons venaient juste d'être formés. Donc il n'a pas eu besoin d'aide respiratoire. Donc ouf. Il était juste très petit et très faible en fait. Et donc je retourne en chambre, je demande à manger parce que j'avais faim, puisque mon dernier repas c'était de gâteau au chocolat.
Eh oui.
Mon compagnon arrive et il m'emmène voir le bébé. Et là c'est la vraie rencontre où j'ai pu faire à mon tour du pot à pot. Mmh.
Est-ce que tu avais prévu d'allaiter toi ?
J'avais prévu d'allaiter et alors on ne sait pas trop si c'est à cause de la prématurité ou de la fente.
Ouais.
Finalement, je pense que c'était à cause de la fente parce que maintenant il prend bien ses biberons. Mais en fait, il se positionnait bien, mais il n'avait pas de force pour tirer.
Oui.
Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du tire-allaitement. J'ai fait que du tire-allaitement exclusif. Je tirais mon lait et j'ai tiré du lait tout de suite, beaucoup. Puisque quand j'ai demandé à tirer mon lait, on m'a dit « Reposez-vous, madame, vous le ferez demain matin. » C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les conseils en me disant « Bon, on verra bien ce que ça donne. » Et j'ai tiré mon lait et j'ai tiré 10 millilitres, je crois. Et les sages-femmes m'ont ouvert de grands yeux en disant « Mais d'habitude, il y a 2 gouttes. » Donc j'étais très contente de ça et donc j'ai pu nourrir très rapidement mon bébé et le lait a été congelé tellement j'en avais pour pouvoir lui donner tranquillement le lait. Donc je me promenais, donc on est resté 15 jours au service néonatologie. Donc je me promenais avec le tire-lait qui était un énorme truc sur roulette. Je me promenais entre la chambre et pour aller au box de bébé, hop, avec le la machine pour tirer mon lait.
Et lui, comment il buvait, du coup, ce lait ?
Et lui buvait au biberon, mais c'était très long. Il mettait 30-35 minutes à boire. Dès qu'il était dans une position confortable, il se rendormait. Donc, ce que faisaient les sages-femmes, les infirmières, les puères, c'est qu'elles le mettaient sur la table allongée, mi-assis sur leurs bras, un peu dans le vide, et puis donnaient le biberon. On gavait, en fait, le bébé. Et il prenait pas assez, donc on lui a mis une sonde.
D'accord.
Voilà. Donc, il a été nourri en sonde, plus le biberon.
Là aussi, c'était potentiellement sa fente labiale qui l'empêchait de bien...
Ça empêchait de faire ventouse.
Ouais.
Donc, on est resté 2 semaines. Les 15 jours les plus longs de ma vie.
Ouais.
Finalement, on est resté que 15 jours. Mais j'ai eu l'impression que ça a duré des mois. Parce que chaque jour, est-ce qu'on a le droit de sortir ? Ben non, il faut encore qu'il garde la sonde. Il ne prend pas assez de poids. Donc on était inquiets, plus la fente. Un coup, on nous dit, vous allez avoir un rendez-vous au CHU, qui est encore à 45 km de là, pour pouvoir voir la chirurgienne, qu'elle vous explique. Ok, et donc on se renseigne, on essaye de se renseigner sur Internet. On voit plein de choses sur les fentes. On voit que c'est une naissance sur 700.
Ah oui, quand même.
Donc, la chirurgienne nous a dit après, elle fait une opération par semaine en Champagne-Ardenne.
D'accord.
On est dans la Champagne-Ardenne, une par semaine, elle fait une opération pour un bébé. Donc, okay. C'est assez courant.
Ouais.
Sauf qu'on n'est pas au courant. Il y a plusieurs types de fentes. Nous, on n'a pas la plus légère, mais on n'a pas la plus grave non plus. C'est-à-dire qu'il a une fente labio-alvéolaire, donc il a sa lèvre qui était coupée et son nez un peu de travers, et un problème à la gencive. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans la gencive, la gencive ne s'est pas formée.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'une fente, on ne sait pas pourquoi il y a des problèmes.
Ok.
Ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Et ça arrive, si ma mémoire est bonne, vers la 7e semaine après la fécondation. Et il faut imaginer que le visage, pardon, se crée comme le casque d'Iron Man, en 3 parties. La partie haute et les parties sur le côté qui se fusionnent.
D'accord.
Et donc la malformation se crée quand il y a un, problème de fusion. Mmh. Donc il y en a qui n'ont pas de palais, il y en a qui ont la lèvre, il y en a qui, enfin voilà, il y a autant de fentes que d'enfants qui ont des fentes en fait.
Ah oui, d'accord, ok. Et donc dit la professionnelle quand vous allez la voir?
La professionnelle dit « Ah bon, vous n'étiez pas au courant, mais normalement ça se voit obligatoirement lors de la deuxième écho, et s'il n'y a pas de deuxième écho, il faut faire une échographie de contrôle. »
Ok.
Ben, on n'était pas au courant, pourquoi on n'a pas eu, on nous a même pas proposé d'échographie de contrôle?
Mais oui.
Eh bien, tout simplement parce qu'on était au mois de juin, et que faute de moyens, que ce soit humain, financier, tout, matériel, il n'y a pas eu de proposition d'échographie de contrôle parce que c'était l'été et que c'était les vacances.
Parce que si tu le vois à l'échographie, ils peuvent faire quelque chose in utero?
Non, ils ne peuvent pas faire quelque chose in utero, mais déjà ça prépare les parents.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a beaucoup, il y a certains parents qui peuvent faire un rejet de l'enfant. On aurait pu complètement le rejeter. Hein. Forcément, quand on attend un bébé, on a des images, on imagine bébé, donc on aurait pu tout simplement le rejeter. Mmh. Et puis, on aurait pu faire un test génétique in utero, parce que pour les grandes fentes, les fentes palatines surtout, il peut y avoir des syndromes associés. Comme une trisomie ou d'autres symptômes dont je n'ai pas connaissance.
D'accord.
Et donc il y a ça, et puis voilà, nous donner une date pour l'opération, faire des choses plus rapidement,
ouais.
Et puis avoir un premier contact, quoi. Et donc tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens, et ben on n'a pas eu notre échographie de contrôle, et on nous a même pas prévenu qu'on devrait faire une échographie de contrôle. C'est là le problème, en fait. Ce que nous, on reproche à la gynécologue et au service médical, c'est qu'on ne nous a informé de rien.
Ouais.
On a imposé ce choix, en fait. Et ça, donc on s'est même dit, est-ce qu'on les poursuit? Est-ce qu'on fait quelque chose? Finalement, on a laissé tomber.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je viens te voir. Je me dis que c'est vraiment important on ne voit pas quelque chose lors de la deuxième échographie où il faut qu'il mesure, qu'il voit tout, les organes, le dos, la face. Il faut faire une échographie de contrôle. C'est obligatoire. Et voilà, là, ça n'a pas été fait. Et quand on a pris rendez-vous avec l'équipe médicale, donc avec la gynécologue et son chef de service, on a cru qu'on allait démonter le chef de service, clairement, parce qu'il a dit « Mais heureusement que vous ne l'aviez pas su avant, que vous l'aviez su à la naissance, parce que moi j'ai connaissance d'un cas où ils ont appris pendant la grossesse et ils ont demandé une IVG.
Mmh. »
Mais déjà, il raconte ça... On ne peut pas faire une interruption volontaire de grossesse pour une fente. Comme ça s'opère bien, c'est pas possible. C'est qu'il devait y avoir plein de syndromes associés,
ouais.
Et que le pauvre bébé ne pouvait pas survivre ou les parents ne voulaient pas cette charge-là.
Mmh.
Voilà. Mais, et puis c'est notre choix. Si on avait voulu faire une interruption volontaire de grossesse, c'était notre choix. Enfin, voilà. Et ça, il ne le comprend pas. Il ne l'a pas compris. Et c'était très violent. C'était
ouais.
Très très violent ce qu'il nous a dit. Voilà, donc 15 jours en service néonat, à se poser plein de questions. Mon compagnon qui lit justement la trisomie, donc il s'est dit, mais peut-être qu'en fait il est trisomique et on le voit pas bien parce qu'il a une fente. Alors évidemment, la pédiatre du service qui nous rassure, elle nous dit, mais non, sinon il y aurait un manque de tonus. Enfin bref, elle nous donne plein de raison pour dire que tout va bien, il a juste la fente et
ouais.
Qu'il est juste préma, c'est voilà. Donc on se fait plein de films, on voit la chirurgienne qui nous réexplique tout, et puis on sort du service néonat, et c'est le bonheur, le bébé souriant tout le temps, bébé gentil, agréable, il pleure que quand il a besoin, enfin vraiment tout se passe bien. J'ai un grand congé mat, donc du coup je profite bien de bébé.
Ouais, il y a la rencontre avec les deux grands frères.
Alors les deux grands frères sont venus au service néonat.
Ah oui,
c'était
d'accord.
Encore à la période avec les masques, donc bon, on a une photo avec les masques. Voilà, le grand, tout de suite, la mère des enfants a été géniale, parce que tout de suite, quand le papa a annoncé du coup que bébé était né avec une fente, elle a fait des recherches avec les enfants, elle leur a montré ce que c'était avant opération, après opération, pour qu'ils se fassent une idée.
Ouais.
Et donc le grand a été peiné pour lui. Et le moyen, il a eu plus de mal. Je vois bien maintenant le avant-après, l'opération. Donc le bébé a été opéré à ses 6 mois. Donc avant, le moyen avait du mal à vraiment jouer avec, à le regarder clairement, à parler avec. Et depuis son opération, le contact n'est plus le même. Il est beaucoup plus présent. Alors, est-ce que c'est parce que bébé a grandi et que du coup c'est plus intéressant aussi,
ouais.
C'est peut-être ça. Mais moi, je pense que c'était impressionnant quand même de voir le bébé avec la fente.
Ouais.
Donc, du coup, il était un peu réticent de partager des moments avec lui. Ouais.
Et donc, vous avez prévu l'opération à ces 6 mois. Comment ça s'est organisé, tout ça? Pourquoi, pourquoi les 6 mois?
C'est la chirurgienne qui a décidé aux alentours des 6 mois, parce qu'à une époque, ça se faisait... certains chirurgiens ailleurs font 3 semaines, après 3 semaines de vie.
OK.
Pour les enfants qui sont nés à terme, hein, pas pour notre bébé qui est né prématuré. Mmh. Mais en fait, ce qu'elle, elle a décidé de faire, c'est donc 6 mois, parce que l'évolution par rapport au nez... il se tord moins, en fait... que si à 3 semaines le nez bouge beaucoup encore.
Ouais.
Donc à 6 mois le nez va encore, comme le nez grandit tout au long de notre vie, il va changer, mais elle pense à plus tard par rapport à l'adolescence, où si l'enfant a un nez complètement de travers, ça peut provoquer des moqueries ou ce genre de choses. Donc elle veut limiter ça un maximum.
Okay.
Donc c'est pour ça 6 mois. Et donc c'est une opération de 2 heures
quand même.
Et donc on l'a pas toute la matinée, et donc ça c'est juste pour le nez et la lèvre. Pour ceux qui ont un palais, ils vont avoir plein d'opérations différentes, donc c'est beaucoup plus lourd. Il y a au moins 2 opérations.
Oui.
tandis que nous, notre bébé a eu qu'une seule opération, et la prochaine qu'il aura, c'est par rapport à sa gencive, mais il l'aura que quand il aura 7 ans.
Okay.
Donc c'est dans longtemps, donc voilà.
Comment tu l'as vécu, cette première opération, toi, en tant que maman, laisser son petit chou à 6 mois?
J'ai fait l'autruche.
Ouais.
Clairement, je l'ai d'ailleurs dit, je fais l'autruche et on verra après. On verra pendant et après. Donc jusqu'au jour de l'opération, j'ai fait l'autruche. Mon compagnon était beaucoup plus stressé et angoissé. En plus, son moyen avait été hospitalisé quand il était tout petit aussi, donc ça lui a ramené pas mal de mauvais souvenirs.
Ouais.
À ce niveau-là, donc il se dit, on recommence tout, on recommence les opérations, on recommence, enfin pas les opérations, les hospitalisations, l'angoisse qui va avec. Plus le service néonat qui, certes, c'était génial dans le sens où on était dans une bulle, et puis je pouvais demander autant de fois que je voulais comment on prenait le bain, comment on changeait la couche, ouais. Ce genre de choses. Ça, c'était chouette. Mais pour mon compagnon qui pouvait pas dormir sur place, qui était obligé de faire les allers-retours et qui les a fait tous les jours, les allers-retours, 45 km aller, 45 km retour pour être avec nous, c'était vraiment un moment très désagréable. Et là, en plus, c'était à 90 km,
oui.
L'opération. Et donc là, on a fait le trajet. Super équipe aussi à Reims, très bien. Et donc, on amène bébé, on fait des petites photos, des petites vidéos pour avoir les derniers moments. Et je me suis dit, j'ai l'émotion qui remonte. Je me suis dit, va falloir que je fasse le deuil de ce premier visage. Que je trouvais tellement chou, mon cerveau a fait en sorte que je le trouve tellement beau.
Ouais.
D'ailleurs, quand je regarde les photos de quand il avait la fente, je le trouve beau. C'est son premier visage, je vais devoir apprendre à apprivoiser un nouveau visage. Ce sera toujours le même bébé, mais ce sera plus la même façon de le voir. Mmh. Et ça, c'est je suis encore émue ouais. par rapport à ce petit visage, pas que j'ai connu 6 mois. Ouais. Et heureusement qu'ils nous ont imposé hein, de faire l'opération. En soi, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour le bébé et l'enfant. Ce que je conçois totalement, évidemment. Mais égoïstement, si j'avais pu faire un choix de cœur, juste moi et sans penser aux conséquences, j'aurais dit au bout de 6 mois, bah non, vous l'opérez pas, il est beau comme ça.
Ouais.
Voilà. Donc il part. Donc on passe une matinée à aller à la cafette, à faire des sudoku, faire des concours de sudoku. À aller chercher, à sortir de l'hôpital, aller chercher un sandwich à un quart d'heure, et on se dit mais peut-être qu'il va revenir à ce moment-là et on va le louper. Non, heureusement non. Voilà, à manger, à refaire des sudoku, et bébé arrive, tout endormi hein, forcément, parce que opéré, puis sous anesthésie générale. Et avec donc un grand pansement dans le nez, ici forcément on nous avait prévenu du sang un peu partout sur sa tête.
Ah oui.
Mais il va bien, et on a l'impression de voir une petite souris. Une petite souris qui s'est pris un coup dans le nez, voilà. Et donc on attend qu'il se réveille, et puis il finit par se réveiller à râler, et puis il veut pas boire parce que bon, il était sous sonde hein, donc il n'y avait pas de problème parce que tout groggy. Et puis donc je passe la nuit avec lui, donc le papa repart. Et puis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec bébé, on n'a jamais eu de problème. Il a fait ses nuits très rapidement. Enfin, franchement,
oui, c'est ce que tu disais.
À 3 mois, il faisait ses nuits. Quand il se réveillait pour boire la nuit avant, de 0 à 3 mois, il était. Je savais qu'à 2h du matin, il allait se réveiller et demander son biberon. Hein, donc, je pense que le néonatologie a aidé dans le sens où comme il ne réclamait pas à manger, on le réveillait pour lui donner à manger, et ça a dû créer une sorte de rituel. Et donc là, nuit catastrophique, parce que il y a des allées venues dans la chambre pour voir si bébé va bien, lui rajouter des antidouleurs, ce genre de choses. Il est branché de partout, donc j'ai l'impression d'être à nouveau au service néonatologie avec tous les câbles de partout, il faut le prendre, et puis là en plus il a un gros pansement sur le nez.
Ouais.
Il faut faire attention que la tête ne cogne pas, donc pour le prendre contre moi c'est compliqué. Donc nuit très compliquée, et heureusement ça a fini par passer, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que tout finit par passer.
Ouais.
et le lendemain il jouait. J'avais amené des jouets et il jouait dans son lit tranquillement. Il voulait pas manger, il voulait pas de lait, il voulait pas de salé. Donc on lui a donné des compotes. Il a voulu manger des compotes.
Okay.
Donc on lui a donné des compotes. Il a été nourri pendant 24 heures en compotes. Et puis on est reparti en fait le lendemain midi. Donc il a été opéré le jeudi matin, et le vendredi midi on était reparti à la maison.
Et t'avais des soins à faire particuliers en rentrant?
Non, pas, il avait ce qui s'appelle un conformateur, c'est des tubes dans le nez qu'il faut qu'il garde. Donc pendant la première semaine, ils sont cousus au nez pour éviter en fait que le nez s'affaisse, que la cicatrisation se fasse mal. Et surtout, il avait des manchons au bras pour éviter qu'il ne touche sa fente, enfin sa fente, non, ce n'est plus sa fente justement,
ouais.
Cicatrice, et qu'il tire sur les fils. Donc pendant 2 semaines, il devait avoir donc des manchons qui bloquent les bras.
Ah là là.
Donc le pauvre petit père qui commençait tout juste à vouloir se retourner, lui qui était un peu en retard à cause de sa prématurité en plus au niveau motricité, et ça l'a freiné complètement.
Ouais.
Lui qui s'endormissait avec ses doudous, la main dans la bouche, là il pouvait plus parce que on avait l'impression de voir un Playmobil.
La frustration.
Frustration plus.
Ouais.
Donc on a installé un matelas dans la chambre pour pouvoir dormir avec lui sur le matelas pour qu'il puisse réussir à s'endormir et s'apaiser. Heureusement, donc mon congé maternité était terminé, mais j'avais eu un congé pathologique d'un mois. Mmh. Donc en termes de timing, c'était super. Parce que du coup, j'ai pu profiter encore de bébé et donc qu'il puisse s'apaiser et puis cicatriser tranquillement. Et donc, jusqu'au mois de juillet, il était censé avoir donc, des conformateurs donc, pour son nez amovible. Donc, on l'enlève, on nettoie le nez, on lui remet, et puis il le garde un maximum de temps possible. Mais en grandissant, forcément, le coquin, bah, il a trouvé le moyen d'enlever le conformateur. Donc, ça fait un mois qu'il ne l'a plus. Il a fait 2 mois sur 3. Et quand on a envoyé un mail à la chirurgienne, ils nous ont conseillé de remettre les manchons pour qu'il arrête d'enlever... le conformateur. Et là, on a dit non, on remet pas les manchons.
Ouais,
c'est non, ça va le freiner dans toute sa motricité, ça va le freiner dans tout. Puis c'est un traumatisme pour nous parents de voir son enfant hurler parce que bah, frustré de pas pouvoir faire ce qu'il veut de son corps. Mmh. Hors de question.
Là, ça fait 3 mois qu'il a été opéré.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Il prend mieux son biberon. Avant, il mettait une demi-heure. Maintenant, il met 5 minutes.
Okay.
Donc c'était sûrement la fente qui empêchait l'allaitement. Moi j'ai arrêté le tir allaitement à peu près au même moment de l'opération, à ses 5 mois et demi. Mais comme j'avais du lait en stock, on a pu continuer jusqu'à ses 6 mois. Comme je reprenais le travail, je voulais être tranquille. C'était donc mon choix d'arrêter. Mm-hmm. Et puis il mange très bien. Il vit sa petite vie de bébé avec un nez un peu tordu, mais... Mais tout va bien là, donc.
Ouais. Il n'y aura pas de séquelles plus tard possibles au niveau de la respiration ou de.
Normalement non. C'est les enfants qui sont nés sans palais que là où il y a forcément de l'orthophoniste.
Ok.
Qui est obligatoire parce que des difficultés d'articulation. Lui, comme c'était que la lèvre et la gencive, normalement, s'il a besoin d'un orthophoniste, ce sera tout simplement parce qu'il en a besoin comme un enfant ordinaire, quoi.
Ouais.
Donc,
d'accord.
Donc pas de séquelles. Normalement, pas de séquelles.
Mm. Est-ce que vous avez échangé avec d'autres parents qui vivaient la même chose ?
Je me suis abonnée au compte Instagram de donc l'association APFFP, Association des porteurs de fente faciale et les parents. Je crois qu'il y a un truc comme ça.
Ouais.
C'est une association justement qui représente les parents et les familles et les personnes qui sont porteurs de fente, tout type de fente. Donc ça, sur leur site, c'est très, très intéressant. Ils expliquent bien les différentes étapes. Et je me suis abonnée aussi au compte Instagram d'une maman où son fils est né avec une fente labio-palatine avec syndrome associé. Et donc là, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur la situation et de voir la chance qu'on avait malgré les difficultés que le bébé a eues.
Ouais. Mais t'as pas échangé directement avec toutes ces personnes ?
Non, je n'ai pas échangé directement. Ouais, je suis restée observatrice.
Oui.
Voilà. Mais je pense que c'est ce qui manque aussi, c'est que vu tous les cas qu'elle rencontre, la chirurgienne, il n'y a pas de moment où... où elle nous a parlé de l'association, mais elle n'a fait que ça. Il n'y a pas de groupe de parole ou ce genre de choses, à part si tu fais partie de l'association.
Ok.
Et l'association est nationale, elle n'est pas locale. Donc c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque aussi, c'est qu'on puisse discuter entre parents ou pour pouvoir, en termes local, quoi, pour pouvoir savoir un peu. Comment ça se passe. Et chose aussi incroyable, à la naissance de bébé, j'ai cherché des podcasts,
ouais.
Et il n'y en avait pas, sauf un qui était sorti une semaine avant, un podcast Les Maternelles, donc ça dure 20 minutes, sur justement un enfant qui est né avec une fente labio-palatine. Mmh. Et c'était très intéressant d'écouter ça, mais c'était très frustrant parce que ça durait que 20 minutes et il n'y avait qu'un seul témoignage.
Ouais.
Et c'est pour ça que je me suis permise de te contacter.
Mais tu as bien
fait. Il y a peut-être des parents qui ont besoin et qui se retrouvent perdus. Et...
Parce que dans le cas d'une fente labiale, est-ce que en fonction du degré, je ne sais pas trop comment on dit, mais il n'y a pas de dossier handicap qui est créé ?
Non, mais c'est considéré comme maladie rare.
Ok.
Donc tous les soins par rapport aux fentes sont pris en charge par la sécurité sociale.
D'accord.
À 100%. Et donc tous les soins associés, donc il va faire de l'orthodontie plus tard à cause de sa gencive. Et donc là, par rapport évidemment à la fente, hein, c'est pas juste esthétique, il se sera pris en charge.
Ok. D'accord.
Parce que considéré comme maladie rare.
Ouais. Ok. Et donc tu disais qu'à 7 ans, il allait avoir une deuxième opération. Il sera plus grand, il sera plus conscient.
Il sera plus grand, il sera plus conscient. Et surtout qu'on va lui prendre de l'os spongieux dans la hanche. Donc il ne va pas pouvoir courir pendant 2 semaines.
D'accord.
Parce que c'est ce qu'elle nous a dit, la chirurgienne. Et là, je suis mon pauvre petit père.
Ouais.
Et en fait, on va lui injecter l'os spongieux dans la gencive pour qu'elle se soude. Et après, on va faire les traitements orthodontie. Donc jusqu'à ses 7 ans, il aura donc son trou dans la gencive. Mais esthétiquement, ce sera comme s'il a perdu une dent de lait.
D'accord, ok.
Ouais. Donc à 7 ans, ça reste mignon, un enfant qui a perdu une dent de lait.
Ouais. Et vous avez prévu de lui en parler au fil des âges.
Oh oui. Ce que le papa ne sait pas encore, j'ai commandé un livre qui retrace la naissance de bébé. Et donc j'attends encore parce que donc c'est Bam Bam Édition qui fait ça. On peut personnaliser son histoire. Et donc là, j'ai demandé, comme c'est des nouveaux projets, c'est pas tout encore sorti, pour parler de la prématurité et le service néonatologie qui va bientôt sortir. Et j'ai demandé à l'autrice si c'était possible de faire des dessins avec une fente labiale, ouais, justement dedans. Et elle m'a dit normalement c'est possible. Donc justement, c'est un livre qui va retracer toute sa naissance. Et dedans avec la fente, parce que justement ça fait partie de lui. Mmh. Il va avoir la petite cicatrice sur le haut de la lèvre qui va certes s'atténuer au fil du temps, mais elle va être là quand même. S'il veut se faire pousser la moustache, ça va être compliqué d'avoir de la moustache à ce niveau là
ouais.
Et puis son petit nez de travers, ça je pense que il l'aura, sauf s'il peut demander à changer. À voir, ça c'est voilà, ça fait partie de lui et c'est à nous en tant que parents d'essayer de lui transmettre que bah c'est son histoire et qu'il faut qu'il s'accepte tel qu'il est. Donc
t'as des peurs toi par rapport à tout ça?
J'ai peur des camarades de classe. Mais je vois bien dans les écoles, dans les collèges, comment ça peut être compliqué parfois. Mais de toute manière, ils auraient trouvé... Enfin, je dis « auraient » comme si ça allait se faire.
Ouais.
Les enfants trouveront toujours... s'ils ont envie de se moquer de quelqu'un, ils trouveront toujours un moyen de se moquer. Donc, que ce soit le fait qu'il ait une fente ou le fait qu'il soit petit, que le fait qu'il soit blond... voilà, c'est... Il y aura toujours une excuse pour se moquer. Mais ça, c'est, je pense, la peur de chaque parent...
Bien sûr.
Quand ils arrivent à l'école et au collège particulièrement.
Ouais. Il en fera une force.
Bah, en tout cas, c'est ce que j'espère qu'il fera.
Ouais. Et avant, on appelait ça un bec de lièvre. Maintenant, c'est plus le cas.
Alors, c'est trop familier. Moi, ça me dérange pas qu'on dise bec de lièvre. Mais il y a des parents, ça, ils ont une connotation négative.
Ok.
Parce que dans l'histoire, en fait, on appelle bec de lièvre, on accusait les femmes d'avoir couché avec des lièvres, et c'est comme ça que l'enfant est né avec une fente, quoi.
What?
Donc, c'est pour ça que voilà, ça peut être vu négativement.
Ah oui? Je connaissais pas du tout
voilà.
Cette anecdote.
Moi, pour moi, un bec de lièvre. Moi, je vois le lièvre, je vois un bec. Bon, bah, ça va pas ensemble, c'est tout, quoi. Je m'étais arrêtée là.
Ah oui, d'accord.
Donc, ça peut être vu de manière négative.
Effectivement. qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune maman qui, comme toi, découvre que son enfant a une fente labiale?
Ça va être des moments durs, mais ça va bien se passer. La chirurgienne, si c'est à Reims, en tout cas, moi je sais qu'elle sait ce qu'elle fait. Je ne sais pas ailleurs, donc je ne vais pas en dire pour ailleurs, mais je pense que quand ils sont spécialisés là-dedans, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Aie confiance en toi, aie confiance dans l'équipe médicale, et tout se passera bien. Ça va être dur, mais ça ira.
Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, dans tout ce parcours ?
Bah, le fait qu'on soit soudés avec mon compagnon, qu'on se soit encore plus soudés après cette épreuve-là, que ça m'a vraiment aidée. Le fait aussi, on a eu de la chance, c'est que aucun membre de notre famille ou notre entourage ont jugé.
Ouais.
Ils ont tous trouvé le bébé beau, alors ils l'ont dit peut-être pour en faire plaisir, je ne sais pas, mais peu importe, il n'y a pas eu de rejet de qui que ce soit.
Tu l'avais annoncé dans les messages que tu envoyais quand tu as...
Dans les messages par écrit, en disant j'attends votre réponse pour envoyer une photo.
D'accord.
Parce que je ne voulais pas justement envoyer la photo en disant « Tenez, voilà la nouvelle !» On voulait faire les choses un peu plus doucement quand même. Mm-hmm. On a même eu un proche qui, quand on lui a demandé « Est-ce que voilà, bébé est né avec une fente, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ça te dérange si on t'envoie une photo ou pas ? On comprendrait totalement. » Et il nous a dit « Bah, allez-y, balancez, moi je suis née avec une fente. »
Ah,
ah bon ? Ah non ! Voilà, on voit rien du tout. Alors c'était juste une petite fente labiale, a priori. Mais bah, on voyait même plus de cicatrices, il n'y a plus rien. Voilà, incroyable.
Ah ouais.
Incroyable la coïncidence aussi.
C'est clair.
Voilà. Et savoir qu'une naissance sur 700 et que c'est la faute de personne, ça rassure beaucoup.
Ouais, c'est assez fou qu'on en parle si peu finalement.
Bah, il pose quand même des questions. Est-ce que vous droguez ? Est-ce que, enfin, les questions. Est-ce que vous êtes alcoolique ? ce genre de choses. Ce qui n'est pas mon cas. mais il demande quand même pour faire des statistiques. Moi, j'ai eu le Covid au moment justement Covid et vaccination au moment justement au moment où la fusion du visage s'est faite. Donc, je me suis dit, est-ce que ça peut jouer ? Donc, je l'ai signalé, mais on ne saura jamais. On ne saura pas, en fait, c'est tout simplement une coïncidence. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bébé, s'il veut des enfants plus tard, il aura un enfant, enfin, il aura. Il y a une chance ou malchance sur 50 d'avoir un enfant porteur de fente.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc ça, il a plus de malchance d'avoir un enfant avec fente, et ça peut être une fente plus grave que la sienne, hein, ou plus légère, peu importe, mais c'est pas forcément la même fente. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut lui en parler, parce que bah, si un jour il décide d'avoir des enfants, qu'il sache que le risque que ça peut avoir. Et on a pris rendez-vous aussi avec la généticienne, parce que certes on n'a pas eu rendez-vous in utero puisqu'on n'était pas au courant, donc on a rendez-vous en septembre, donc un an après la naissance de bébé, parce qu'il n'y avait pas de place avant, pour se rassurer. Pour pouvoir faire des petits tests, parce que physiquement, a priori, tout va bien, mais on aimerait bien avoir son point de vue pour qu'elle puisse nous rassurer, et quitte à faire des tests plus approfondis pour être sûr qu'il n'y ait pas de syndrome caché,
ouais,
dont on n'est pas au courant.
Mmh. Okay.
Parce que voilà, ça aurait dû se faire in utero.
Ouais, ça, tu l'as.
Ouais, je l'ai gros sur la patate, ouais, là. Ouais, ça, c'est le fait qu'il y ait un manque de moyens. Enfin, on peut comprendre, mais il fallait nous le dire. On manque de moyens, de temps, de ce qu'ils veulent. Aller voir ailleurs, ou pas, mais c'était notre choix, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
J'ai l'impression d'être plus complète.
Ouais.
D'être vraiment moi-même, tout en restant moi. Le fait d'avoir eu des beaux enfants avant m'a montré ce que c'était qu'être un coparent. Donc je suis plus sereine. Et ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman rémoise ?
Pouvoir me promener avec mon fils en porte-bébé ou en poussette le long du lac, mettre les pieds dans l'eau, voir la forêt, lui montrer les canards, lui montrer les cygnes, lui montrer les oiseaux, profiter du jardin. Pour moi, c'est ça, être une maman à la campagne.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré où t'aimes bien aller avec ton petit chou?
Alors, je vais pas redire le lac, parce que ça fait... c'est redondant. Mais j'ai bien aimé aller à Ikea.
Parce qu'il y a tout ce qu'il
faut pour bébé. Désolée. Voilà, je trouve dans ce grand magasin qu'il y a plein de choses pour changer le bébé, une salle spéciale pour changer le bébé, pour lui donner à manger avec la chaise haute, tout en faisant les petites courses. Moi, j'aime bien.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Rien que pour moi, continuer à apprendre la langue des signes. Parce que j'apprends la langue des signes depuis quelques années, mais depuis que j'ai 8 ans, je voulais l'apprendre, la langue des signes. Donc continuer la langue des signes, pouvoir le partager avec bébé, ça c'est pour moi. Et puis pour la famille, profiter de nos vacances. On va bientôt partir au mois d'août tous ensemble chez les grands-parents. Et puis pour notre couple, on nous a offert... pas mal de sous pour notre fête, et donc on va voir pour faire un voyage tous les deux, pourquoi pas en Finlande ou ailleurs, mais voilà, être se retrouver à deux, à trois et à cinq.
Merci beaucoup Floriane.
Merci beaucoup Shane.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !